Coucou papa, c'est moi. Moi j'espère que tu vas bien. Merci pour tes messages, ça me touche beaucoup. Écoute, hier j'ai envoyé les enfants. Voilà, donc ils sont partis hier. Ça me déchire le cœur, je te jure. Bon, c'est pour leur avenir, leur éducation. Je trouve ça fou de faire ça. Je fais ça pour eux, mais je trouve ça un peu dégueulasse qu'on soit obligé de faire des trucs comme ça. Mais bon, c'est de notre faute, j'ai déjà gâché leur vie, donc je veux pas continuer. Et sinon, il faudrait que tu contactes l'aide sociale à l'enfance, je pense. Voilà, essaye de faire ce que tu peux. Tiens-moi au courant si t'as des nouvelles. Voilà. Que je t'impose rien si tu veux juste aller les voir ou. Je sais qu'ils vont être placés en famille d'accueil déjà, et je t'impose pas de les prendre avec toi. Je sais pas ce que tu veux faire, tu fais comme tu peux, comme tu peux, comme tu veux. Voilà, papa. Bisous, je t'aime fort, je t'aime, bisous.
Pendant très longtemps, les femmes m'ont parlé la nuit, parce que les téléphones portables sont interdits, donc elles les enterrent, elles les partagent, et si elles sont prises avec à la main un téléphone portable, elles sont emmenées directement dans une prison, avec leurs enfants ou sans leurs enfants d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est très dangereux pour elles d'en posséder un. Donc pendant très longtemps, elles le cachaient.
Marie Dosé, avocate.
Donc j'ai été en lien avec elles, notamment en 2019-2020, surtout la nuit. Et on s'échangeait, bien sûr, des informations. Elle me posait des questions sur les rapatriements, sur ce que je pouvais faire. Et puis elle me renseignait aussi sur la situation là-bas, et c'est ainsi que j'ai pu renseigner le Quai d'Orsay et l'Élysée beaucoup.
À l'exception de quelques enfants, et jusqu'en juillet 2022, la France a refusé de rapatrier les femmes et les enfants français qui mouraient dans les camps tenus par les Kurdes en Syrie. Ce travail, sans prétendre se substituer à la justice, ni dire que les choses sont simples, raconte cet abandon, le calvaire de ces êtres humains et leur parcours, quand enfin on les fait revenir.
Vas-y, à la maîtrise.
À la maîtrise, ok? Retourne à Jean-François de Winamot, dans ma chambre, appuie sur le commentaire. Je la sortie ainsi car rien ne l'espère. La retraite disait bonjour, mon petit père. Prenez ma plume, ouvre mes livres, j'essayais, dans mon lit, dans un bel papier et riez. Puis je dois s'en aller, comme un oeil repris. Alors je reprenais la tête parce que moi, là. Mon œuvre interrompue, autour dans un creveur, parmi mes manuscrits, je raconte très souvent. Carabelle que folle,
et que
qu'elle avait tracé,
et main
que passe aux blanches, c'est à moi français, halas, parce que l'autre, je peux pas dire beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Lui, voyez-vous, il a une histoire terrible. C'est un gamin qui est né en Syrie, et sa maman a vécu avec une autre femme qui avait une petite fille. Cette petite fille a 2 ans de plus que cet enfant. En fait, cette petite fille et cet enfant étaient élevés ensemble, parce que ces deux femmes ont vécu ensemble, toujours. La maman de cette petite fille a été tuée dans des conditions horribles. Et donc, cette petite fille, eh bien, a été prise en charge par la maman de ce petit garçon. Et en réalité, ils sont devenus frères et sœurs. C'est-à-dire que cette petite fille orpheline, parce que sa maman est morte quand elle avait 2-3 ans à peine, a très vite considéré la maman de ce petit garçon comme étant sa maman. Et que quand cette femme arrive avec ce petit garçon et cette petite fille dans les camps, cette petite fille n'a plus de souvenirs de sa maman. Et sa maman, c'est elle. Sauf que cette femme, un jour, m'appelle et me dit « Mais moi, je peux pas. J'aurais entendu que la France rapatrie des orphelins. Si cette... Je ne peux pas dire son prénom, je vais l'appeler Maria, d'accord? Si Maria peut être rapatriée parce qu'elle est orpheline, je ne peux pas continuer à la faire passer pour ma fille, c'est pas possible. Ça va être horrible, mais... Donc j'ai demandé aux autorités le rapatriement de cette gamine en prouvant que c'était pas sa fille et que c'était une petite fille orpheline. J'ai d'ailleurs contacté la famille de cet enfant pour lui annoncer qu'elle était en vie d'abord parce qu'il l'ignorait. Et que la femme qui prenait soin d'elle depuis des années et qui jouait le rôle de sa maman, qui était en fait sa maman. comprenait qu'il fallait qu'elle soit rapatriée et qu'elle arrête de vivre l'enfer dans les camps si elle avait une chance de pouvoir partir parce qu'elle était en réalité orpheline. La France l'a rapatriée, cet enfant. Et cet enfant est en France, sans son histoire. Parce que cet enfant est en France, avec des grands-parents maternels qui lui montrent les photos d'une femme qui n'est pas sa maman dans sa tête. Cet enfant est en France sans son histoire. Pour cet enfant, son petit frère, il est là-bas. Sa maman, elle est là-bas. Et pour ce petit garçon qui reste suivi Victor Hugo, ben, sa sœur, elle est dans l'avion et il ne comprend pas pourquoi. Elle est dans l'avion et pas lui. Il parle tout le temps d'elle. Tout le temps. Tout le temps. C'est tout ça. C'est tout ça qu'on est en train de fabriquer. Vous comprenez, c'est ces traumatismes-là qu'on est en train de fabriquer. En triant. En choisissant. En attendant.
L'antiterrorisme français. La justice et la peur. Les enfants des camps syriens. Adrien Chevrier. Séverine Cassard.
Je pense que ce qui est important qu'on comprenne, c'est que ces enfants, ils ont une histoire de France. Malgré que la France a essayé et continue malheureusement à essayer de faire, c'est-à-dire de les transformer en enfants fantômes, mais ces enfants, ils ont une histoire de France. Ils récitent Victor Hugo, ils récitent La Fontaine, ils parlent français, la France existe. Et ça, c'est important de le comprendre, en fait. Donc il y a des enfants qui sont nés dans les camps, qui ont 5 ans aujourd'hui. En 2019, au moment de la chute de Baghouz, les enfants qui rentrent, pour leur grande majorité, ont 2 ans, 3 ans. Ils ont tous ou presque moins de 6 ans. Donc en fait, ils ont passé les 2/3 de leur vie dans ces camps. C'est des gamins qui n'ont pas du tout de souvenirs de Daesh. Enfin, c'est pour ça que je ne supporte plus, moi, les enfants de djihadistes, les enfants de Daesh. Non, c'est les enfants des camps, en fait. Si vous voulez un qualificatif, c'est celui-là, les enfants des camps. Ce sont des enfants d'abord, tout court, dans l'absolu. Mais c'est les enfants français des camps. Donc, leur histoire de la Syrie, c'est l'histoire de la France qui les maintient dans ces camps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Leur histoire de France à ces enfants, c'est aussi une France qui aura refusé que leur famille vienne les voir dans les camps, qui aura refusé que des avocats viennent les voir leur maman dans les camps, qui aura refusé que des humanitaires français, médecins, pédopsychiatres les visitent et en prennent soin, et qui aura refusé de les rapatrier. Et c'est notre histoire. C'est notre histoire de France aussi. Il va falloir, à un moment donné, qu'on l'explique et qu'on l'assume. Et les avoir laissés toutes ces années dans ces camps, en faisant croire qu'on ne pouvait pas les rapatrier, ce qui est faux, tout ça pour plaire ou en tout cas conforter ce que l'opinion publique peut charrier de pire, ça, c'est la victoire de Daesh. Et c'est l'échec de notre état de droit. Roge, c'est un camp de prisonniers. Ce sont des barbelés. Les enfants font le tour du camp Roge en 10 minutes, s'ils courent. Et plus les enfants grandissent, plus le camp se rétrécit. Ce sont des camps, le nord-est syrien, il fait très très chaud, et puis très très froid. Elles ne se chauffent qu'avec des bonbonnes de gaz qui explosent. Les tentes brûlent régulièrement. Et la hantise, c'est que les tentes brûlent. Il n'y a pas toujours de l'eau potable. Le froid est terrifiant. Ce sont des camps. C'est pas moi qui ai inventé le terme de Guantanamo pour enfants. Ce sont des ONG qui vont sur place et qui renseignent sur la situation. Donc, voilà, c'est l'enfer des camps. C'est l'enfer des camps. C'est cet univers, le sable, la boue, des tentes, et rien. Et rien. Rien.
Oui,
parmi les rares personnes qui ont obtenu l'autorisation d'accéder à ces camps en Syrie. Gaëlle Joly, journaliste à France Info, et Raymond Albouy, preneur de son à Radio France, ont pu enregistrer le témoignage de plusieurs femmes et d'enfants emprisonnés. Ils ont accepté de nous en parler et de nous laisser diffuser leurs enregistrements.
On est parti au Kurdistan syrien en avril 2022, quand on est arrivé en voiture aux abords du camp de Roj. C'était cerné de barbelés en plein milieu du désert, plein de poussière. C'est une prison dans laquelle vivent 200 enfants français et 80 femmes françaises et d'autres nationalités. Quand on est rentré, évidemment, on est fouillé, on est emmené dans un bureau et on a cette garde qui ne nous lâchera plus pendant 2 heures. On a 2 heures pour tourner tout ce qu'on a à tourner et donc on déambule à travers les tentes. Donc c'est de la poussière partout, des carrés de tentes avec des grands numéros dessus, c'est des adresses pour les retrouver assez rapidement. Ça ressemble à Calais. J'ai beaucoup travaillé là-bas. Les tentes de Calais, donc avec des migrants à l'intérieur, sauf que là, ce sont des Français. Et donc, l'hiver, il fait très, très froid, c'est glacial. Les tentes brûlent parce qu'ils font du feu et donc il y a des accidents. L'été, c'est très chaud, c'est irrespirable. Les enfants vont à l'école 2 heures par jour pour apprendre le kurde, l'anglais. Mais c'est plutôt une garderie. Laisse te poser une petite question.
J'ai déjà parlé plein de fois.
T'as parlé 2 fois, c'est ça? Tu sais, c'est pas beaucoup.
Mais reste tout le monde là, bien.
Tu sais, là, ce que je fais, c'est moi, c'est de la radio. Et tu vois, je sais que t'as... Toi, t'as des grands-parents et des tantes qui veulent venir te voir. Est-ce que tu me laisserais juste te poser une toute petite question avec ce micro? Je peux te le prêter. C'est qui là-bas?
C'est mon frère. Il dort.
Là, il y a tes 2 frères qui dorment dans ta tente. Vous dormez sur des matelas. Vous vivez tout seul ici, hein, toi et tes petits frères. C'est toi qui t'en occupes comme une maman?
Non, on vit avec une sœur.
Qui s'occupe de vous?
Oui.
Est-ce que tu as froid des fois?
Non. Quand il pleut, l'eau rentre des fois.
Est-ce que tu te souviens quand tu es partie de France?
Oui, mais pas trop. J'avais 6 ans.
Et ensuite, tu es venue ici, en Syrie. Tu te souviens de quand tu es venue?
Non. Dès que j'avais 6 ans, juste. Je me rappelle juste ça.
Est-ce que toi, tu aimerais rentrer en France ou tu veux rester ici?
Non, j'aimerais rentrer en France.
Tu sais pourquoi?
Parce que c'est mon pays, je sais pas, j'ai pas envie de rester dans le camp, je sais pas. J'ai envie d'aller à l'école, j'ai envie de revoir ma famille.
Tu te souviens de ta famille là-bas?
Oui. J'ai plein de familles, j'ai mes tantes, ma grand-mère, mon grand-père,
mon père. Tu sais qui t'attendent là-bas?
Oui.
Tu te souviens pas de grand-chose, mais toi tu as été blessée. Tu te souviens de ça ou pas?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas comment dire.
Tu étais à Mossoul, c'est ça?
Non.
Tu étais où?
À Raqqa, j'étais.
Tu étais à Raqqa? Et qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai été blessée dans ma tête. J'étais paralysée plus que 3 mois.
Tu perds un peu la mémoire des fois?
Des fois, j'oublie un peu, pas trop. Par exemple, je posais un truc là, je vais oublier.
Est-ce que tu es fâchée contre la France qui t'a pas rapatriée?
Oui.
Tu es fâchée?
Oui. Parce que ça fait longtemps qu'on croit qu'ils vont nous rapatrier. Et à chaque fois qu'on a l'espoir, et ben on perd espoir à chaque fois. C'est pour ça que je voulais plus parler, je voulais plus... Ça fait presque 4 ans qu'on est dans les camps. Tout seul, sans mère. On n'a rien à faire ici, juste.
Qu'est-ce que... Je sais qu'on t'a déjà posé cette question, mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que tu es un danger?
Pour parents, ils disent ça. Pourquoi je suis en danger? J'ai rien fait. Je suis venue avec ma famille dès que j'étais petite. Je suis venue avec ma mère. Je sais pas pourquoi je serais en danger.
Mon fils de 5 ans, c'est quelque chose qui me reproche. Parce que lui, il me demande à rentrer. Mais je lui dis que c'est pas en mon pouvoir. Moi, j'ai aucune responsabilité sur ça. J'ai pas le pouvoir de pouvoir le faire rapatrier. Donc là, je suis dans une impasse.
Vous aimeriez le faire rapatrier ?
Sincèrement, mon âme de maman a pas envie de se séparer de mon petit garçon de 5 ans. Mais je vois que sur cette dernière année, ça devient très difficile pour lui. Parce que c'est quelque chose qu'il me demande. Il me demande d'aller à l'école. Il me demande de voir sa grand-mère. Il me demande de voir son frère en France. Et puis sincèrement, il n'en peut plus du camp. Enfin, je le vois psychologiquement et mentalement. Il arrive à s'exprimer maintenant et à dire ses ressentiments sur ça. Et il n'y arrive plus.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il me dit, je veux partir d'ici. Il me dit, j'en ai marre. Je veux plus être dans le camp. Je veux jouer. Je veux aller au parc. Je veux aller à la mer. Je veux faire des activités. Je veux aller à l'école. Il me dit, j'ai 5 ans. Maman, est-ce que j'irai à l'école ? Parce que moi, je lui fais l'école, mais j'ai aucun support. Donc, je vais sur ce que moi, je sais. Mais ça reste un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans, il va à la maternelle. Il a une maîtresse. Il a une ATSEM qui le suit. Moi, mentalement et psychologiquement, je peux pas lui donner plus que ce que je fais maintenant. Est-ce et je sais ce que je fais maintenant, c'est pas...
Est-ce qu'il est prêt à se séparer de vous ?
Moi, de lui, non. J'ai vraiment du mal. Mais lui, de moi, oui, parce qu'il me l'a dit. Et il me dit, maman, même si je pars, toi, tu viendras et tu reviendras me chercher. Et c'est vraiment difficile parce que quand votre enfant... Il vous dit ça, vous avez votre mère de maman qui est déchirée parce que vous aimez votre enfant plus que tout. Mais à côté de ça, vous voulez le meilleur pour lui. Donc c'est être égoïste de le garder auprès de moi parce que c'est mon âme de maman qui veut le garder. Mais pour lui et son avenir, je sais que ce serait bien mieux qu'il parte. Mais à côté de ça, mais pourquoi faire encore un traumatisme à un enfant en se séparant de sa mère ? Moi, je me dis, mon fils, il a vécu 24 heures sur 24 avec moi. Il a vécu des traumatismes comme la prison. Mon fils, il a fait 6 mois de prison avec moi pour un transfert de camp. Sans rien, sans vêtements. On est rentré en hiver, on est ressorti en été. C'est un traumatisme qu'il a gardé à vie, il en parle encore. Il me dit, maman, j'ai peur qu'un jour, ils te reprennent et que tu ailles en prison. C'est un truc, il en parle encore. Je vois, de toute façon, psychologiquement, que moi, j'y arrive plus. Mais si moi, j'y arrive plus, je me dis comment un enfant de 5 ans, il y arrive. C'est impossible.
Et vous, vous êtes prête à aller en prison en France ?
Moi, oui, parce que j'en suis tout à fait consciente. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais l'erreur que j'ai faite. Je tiens à la payer. Et surtout, je suis consciente qu'en allant en France, j'ai ce chemin-là à faire. C'est que c'est la casse-prison et je l'accepte. Donc en fait, je sais qu'à partir de là, on sera séparés.
Il est où là, votre enfant ?
Là, il est chez une voisine, parce que je lui ai dit que je partais. Donc il me semble qu'elle le surveille dehors, il est en train de jouer, mais...
Vous êtes arrivée quand dans ce camp, vous ?
Alors moi, je suis arrivée il y a quasiment un an. On est arrivé dans les camps, mon fils, il venait d'avoir 2 ans.
Okay. Ouais.
Ouais. Sincèrement, c'est difficile parce que nous, on est conscientes de ce qu'on a fait, mais eux, ils doivent pas payer pour nous. Eux, ils méritent pas tout ça. Et je me dis, autant un enfant de 5 ans, mais autant une adolescente qui est venue avec ses parents et qui est là maintenant toute seule, ou qui est encore avec sa mère, par exemple, mais qui a pas d'avenir ici. Je connais une petite, elle est arrivée, elle avait 7 ans, mais elle en a 14 maintenant. Mais elle fait rien de ses journées. Tous les jours, c'est la même chose. C'est un cauchemar sans fin. Tous les jours, on se réveille, on est dans cette tente, on est dans ce camp. Psychologiquement, c'est difficile. Et en plus de ça, on doit aussi gérer nos enfants. Mais sincèrement, on n'y arrive plus. Sincèrement, il y a des burn-out chez les filles qui sont en bas. C'est que psychologiquement, elles sont tellement mal, on est tellement mal qu'on en tombe malade. Mmh. J'ai une de mes voisines, là, elle a été sous sérum pendant 4 jours. Parce qu'elle n'y arrivait plus. Et c'est vraiment, c'est... on n'y arrive plus. Et c'est un cauchemar sans fin. Alors qu'on demande, on leur demande, on leur dit on veut être rapatriés, on regrette, on sait ce qui nous attend, on payera de ça. On le sait, on en est consciente. En attendant, voilà, on est toujours là.
Moi, j'ai 14 ans. Bon.
Tu vis ici depuis combien de temps ?
Depuis un an et demi. C'est dur, surtout moi, je suis blessée, c'est très dur.
Tu es blessée où ?
Je suis blessée dans mes deux jambes et dans mon bras. J'ai pris des balles. Ici, dans mon bras, une balle. Dans mon pied, ici, deux balles, il était cassé avant. Maintenant, c'est bon, il est bien. Et lui, j'ai pris une balle il y a longtemps et maintenant, je suis tombée, c'est recassé.
Et qu'est-ce que ça a comme impact sur toi ? Tu as le bras paralysé, je vois ?
Oui, regarde, je peux pas le bouger même pas.
Oui. Tu peux pas bouger la main ?
Non, juste un tout petit peu.
Tu n'as pas été soignée ?
J'ai fait une opération là il y a longtemps à Hasaka, maintenant non.
Parce qu'ici, toi tu es orpheline, c'est ça ?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Comment, Yann ?
Tu as perdu ta maman ?
Oui, et mes frères. Mes deux frères.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah en fait, on était... À qui vous avez entendu de Barouze ? Oui, vas-y, on était là-bas. C'était la guerre là-bas. Voilà, là-bas, en fait, tout le monde mourait, tout le monde... Ça... Et après, nous, on était en train de sortir de là-bas, il y avait une montagne. Et là-bas, il y a plein de bombes et tout. Après, ma mère, il y a eu une bombe sur elle. Ma mère et mes frères, elles sont morts. Et après, ça m'est venu, moi, une balle là dans mon bras. Après, je suis tombée par terre. Après, ça m'est venu des balles dans mes jambes. Après, il y a des militaires qui nous ont pris, qui nous ont portés. Ils nous ont emmenés à Hall d'abord. Après, je suis partie à Hasaka, ils m'ont fait une opération et des trucs comme ça. Après, je suis retournée à Hall, je suis restée encore un an et quatre mois. Après, je suis venue ici à Roj. Quand je suis venue ici à Roj, ils m'ont dit qu'ils allaient nous prendre directement en France. Après, ils nous ont dit, vous allez rester 20 jours et vous allez y aller. On a dit, ok, là, ça fait un an et neuf mois, on est là, je crois, comme ça.
Est-ce que tu es fâchée contre la France ?
Non, je suis pas fâchée. Maintenant, nous, on est habitués d'être n'importe où on vit, on y arrive à vivre.
Quand les Français, ils disent, non, on veut pas revoir ses enfants, et c'est des dangers, qu'est-ce que tu penses de ça ?
Je pense, peut-être, ils nous connaissent pas bien, c'est pour ça.
Et s'ils vous connaissaient ?
S'ils nous connaissaient, peut-être ça allait être mieux.
Vous n'avez rien fait, c'est ça ?
Non, on n'a rien fait, on était toutes petites, on sait rien, nous. On veut juste retourner en France et vivre à Adi comme les enfants, normal.
Alors, en fait, on est venu me chercher et on m'a demandé si je voulais envoyer mon enfant. Et moi, ça fait quelques années déjà que j'y pense et donc j'avais dit oui. Et on m'a fait écrire un papier, mais par contre, c'était en arabe. Et où je disais que j'étais d'accord pour envoyer mon fils. Et donc voilà, j'ai dû signer. Et je pensais qu'ils allaient venir dans les prochains jours. Ben, ils ne sont pas venus. Et mon fils, en fait, depuis longtemps, je le prépare à ça. Et au début, il était d'accord. Et il me disait, oui, toi, tu vas aller dans l'avion. Moi, je vais prendre l'avion et toi, tu vas rester ici. Et là, alors, est-ce que c'est parce qu'il est plus grand ou est-ce qu'il a compris, en fait, vraiment l'enjeu ? Et il m'a dit, non, moi, je ne veux pas y aller. Je veux aller avec toi. Je veux que tu viennes avec moi dans l'avion. Et là, du coup, là, j'ai changé d'avis. Parce qu'en plus, lui-même comprenait. Je pense que même lui... je pense que même lui comprend que s'il part, il ne me verra pas avant longtemps. Parce qu'il a vu d'autres enfants partir sans leur mère. Et il voit toujours les mères ici. Donc même s'ils sont petits, je pense qu'ils comprennent. Même s'ils n'arrivent pas à mettre de mots là-dessus, je pense qu'ils comprennent. Quoi.
Il a 6 ans et vous vivez avec lui jour et nuit depuis 6 ans.
Oui, depuis toujours. Oui, depuis qu'il est né, quoi. Et il dort avec moi. Enfin, je suis la seule personne qui... Enfin, je suis son point de repère. Il connaît d'autres personnes, oui. Mais je suis son point de repère, quoi. Il connaît personne d'autre. Je lui parle de ma sœur. Il lui envoie des audios. Elle lui envoie des audios, des vidéos, des photos. Mais concrètement... En plus, le problème, c'est que s'il part... Enfin, s'il est envoyé en France sans moi... Dans tous les cas, il sera placé dans une famille, mais il ne connaît pas ces personnes-là. Et en plus, je ne serai même pas là pour lui expliquer. Et en fait, ouais, c'est compliqué, quoi. En fait, le problème, c'est que J'étais motivée de l'envoyer parce que j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose ici. Parce qu'on ne sait jamais la situation, comment elle peut évoluer. Parce que concrètement, notre pays ne nous rapatrie pas. Mais il peut se passer plein de choses entre la Turquie, le régime de Bachar. Et en fait, moi, j'avais peur de ça. Mais je n'ai pas pensé au côté, au traumatisme que ça pouvait... avoir en fait chez lui. En fait, c'est choisir entre la peste et le choléra. On nous demande de choisir entre ça et ça. Enfin, les enfants sont ici, ok, ils jouent, vous voyez là, il y a des enfants qui jouent, qui sont heureux, mais c'est pas normal en fait. Enfin, c'est pas normal qu'ils n'aillent pas à l'école. Vous savez, parfois en fait, il y a des enfants, on sait même pas quelle langue ils parlent. Est-ce que c'est normal? Il y a des enfants qui ne parlent que. Enfin, c'est même pas l'arabe, c'est du syrien, ils rentreront en Russie ou. Enfin, peu importe où, et en fait, ils ne connaissent ni la culture ni la langue de leur pays. Sachant que peu importe en fait combien de temps on restera ici, ce ne sera pas indéfini. Et en plus, ils ont le droit de grandir dans un environnement stable et leur environnement, en fait, l'environnement de leur famille.
Et votre fils, vous lui apprenez les choses, le français ?
Oui, oui, il parle français. Il parle un petit peu arabe, forcément, parce qu'il y a des personnes avec qui je suis obligée de parler arabe ou anglais. Mais j'ai eu la chance de recevoir des livres. Donc par ma sœur, elle avait fait passer par une journaliste. Donc ça m'a permis d'avoir des supports pour lui apprendre le français. Donc là, il sait lire, il sait écrire. Et voilà, je lui apprends un peu aussi les maths. Mais en fait, c'est pas... Ben voilà, j'ai pas la pédagogie pour. Et puis il y a tellement de choses, en fait, à leur enseigner. Par exemple, en fait, il comprend pas c'est quoi un pays. je sais pas comment lui expliquer parce que nous, on est juste dans un camp. Et par exemple ça, et la dernière fois, je crois qu'hier il me demandait c'est quoi le monde. En fait j'arrive pas à lui expliquer c'est quoi le monde. Enfin, je lui dis bon là on est dans un camp mais dehors il y a encore d'autres pays, c'est grand mais
c'est lui, des choses. Lui il connaît rien d'autre que ça.
Bah non, en fait on est sorti de Barouz, il avait 3 ans.
Et vous, si on vous disait vous rentrez, vous allez en prison, mais votre fils il sera pris en charge, c'est une option qui vous va?
Oui. Oui, parce que. Parce que déjà, c'est vrai qu'au début, il n'aura pas. Il ne verra pas, il ne verra pas sa famille. Mais c'est le temps que tout se mette en place. Après, il y aura des droits de visite. Donc, moi, je pourrais lui expliquer. Et je pense que, s'il me voit, même s'il ne me voit pas tout le temps, c'est juste des visites, il saura que je suis là et que. Même si c'est quand même traumatisant, mais je serai quand même là. Et puis en prison en France, on continue quand même de vivre malgré tout, parce qu'on peut travailler, on peut reprendre ses études. On a des interlocuteurs extérieurs qui vous aident quand même à cheminer pour entre guillemets, se déradicaliser. Parce qu'en fait, on nous parle de déradicalisation. Concrètement, ici, on ne parle avec personne. Donc en fait, s'il y a des personnes à qui on va enlever ces idées-là, il faut qu'elle parle avec des personnes extérieures, en fait, et des professionnels. Et là, c'est pas le cas. Donc, voilà.
Vas-y, à la maîtrise.
À la maîtrise, ok. Quand on a un photo de venir dans ma chambre, appuie sur le commentaire. Je la sentais ainsi qu'à rien qu'on espère. Et la retraite disait bonjour, mon petit père. Prenez ma plume, ouvre mes livres, s'asseyez sur mon lit, dans un bel papier et riez.
La première fois que nous avons rencontré Marie Dosé, elle nous avait fait entendre ce mémo vocal que lui avait envoyé, une nuit, une de ses clientes, la mère de cet enfant. Dans le camp de Roge, en Syrie, Gaëlle Joly et Raymond Alboui ont retrouvé cet enfant et son poème.
Prenez ma plume, ouvrez mes livres, s'asseyez sur mon lit, changez mes papiers, irez. Pour ce dents s'en aller comme un oiseau qui passe, alors je reprenais la tête un peu moelleuse. Mon œuvre interrompue en tout un écrivant parmi mes manuscrits et rencontré souvent.
J'avais rencontré sa tante à ce petit garçon en banlieue parisienne et elle m'avait dit que sa mère avait vraiment à cœur de lui apprendre le français, la belle langue. Et d'ailleurs, elle m'a donné 4 kilos de livres à lui ramener. J'étais pas sûre qu'ils acceptent, mais les Kurdes ont accepté. Justement pour pouvoir travailler la langue. Et ce poème de Victor Hugo, c'est sa mère qui chaque jour lui faisait répéter. Et en banlieue parisienne, sa tante écoutait les progrès sur WhatsApp. Elle entendait petit à petit le poème arriver, de se former. Et donc moi, sachant ça, quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé de me réciter ce si beau poème. Et c'est ce qu'il a fait. Et voilà, et sa maman était très fière. Ouais.
La France, à partir de 2019, à partir de la chute de Baghouz, les autorités françaises prennent la décision politique de rapatrier tout le monde.
Marie Dosé.
Quand je dis tout le monde, je ne parle pas seulement des femmes et des enfants, je parle aussi des hommes. Parce que c'était un impératif sécuritaire. Le plan de rapatriement de 2019, nous l'avons. Il a été rendu public. Moi, je me souviens très bien, on est en février 2019, les magistrats instructeurs antiterrorisme disent « Bon, vous partez pas en vacances parce qu'ils vont tous rentrer, là. » Et je me souviens encore des familles d'accueil qui m'expliquent « Nous, on nous a dit de garder les téléphones ouverts même la nuit parce que les enfants, ils vont rentrer. » Tout était prévu pour un rapatriement. Dans le plan de rapatriement, vous avez même les gardes à vue qui sont pris en charge par la SDAT, les gardes à vue qui sont pris en charge par la DGSI, enfin, voilà. Et puis... fuite dans la presse, et notamment dans les médias, je n'ai pas envie de les nommer. Bref, il y a une fuite qui fait que pour des raisons sécuritaires, l'opération de rapatriement va être retardée. Ensuite, un sondage qui établirait que la grande majeure partie des Français ne souhaite pas cette opération de rapatriement. Emmanuel Macron, l'Élysée, fait le choix d'attendre.
Ça, vous pourriez revenir sur le sondage en un mot ?
Oui, bah, le sondage, c'était très simple. Hein, c'était la question, en plus, elle est posée d'une façon. La question posée dans le cadre de ce sondage, c'était « Est-ce que vous souhaitez que ces enfants rentrent en France ou est-ce que vous préférez qu'on fasse tout pour qu'ils soient pris en charge là où ils se trouvent ?» Parce que la vraie question, c'est pas ça, c'est « Est-ce que vous trouvez normal que les enfants français rentrent dans leur pays ou est-ce que vous trouvez normal qu'on laisse mourir des enfants dans des camps, en zone de guerre, entre des barbelés ?» C'est ça la vraie question. Voilà, c'était ça la question qu'il aurait fallu poser. Mais elle n'a pas été tournée de cette façon-là. En tout état de cause, ce sondage qui bouscule un calendrier arrive à ce moment-là. Les autorités politiques, en tout cas l'Élysée, n'a pas le courage politique de passer outre. Se dit on va attendre un peu, et puis ensuite gilet jaune, et puis ensuite crise sanitaire, et l'Élysée se fige sur la politique nationale, et se dit probablement qu'il va falloir attendre le prochain quinquennat. Donc, il va y avoir cette fameuse politique du cas par cas. Alors au départ, c'est bon que les orphelins, c'est-à-dire que toi, t'as la chance d'avoir une mère morte, donc on va te ramener en France, toi par contre, ta mère est vivante, tu restes crevé avec elle dans ce camp-là, c'est ça, hein, le cas par cas. Puis ensuite, la France va être le seul pays européen à essayer d'acculer les femmes à se séparer de leurs enfants, c'est-à-dire qu'on va arracher les enfants à leur mère dans les camps pour les ramener seuls en France. Pour m'être occupée de beaucoup d'entre eux, je peux vous assurer que c'est une catastrophe. Vous imaginez un enfant qui se lève le matin en se demandant si sa mère, sous la tente, ou lui-même a souffert, est toujours vivante ou morte. Vous imaginez aussi ce même enfant se demander si son petit frère et sa petite sœur restés sous la tente sont vivants ou morts parce qu'on a séparé sa fratrie. Dans ce choix politique profondément inhumain, la France a aidé jusque-là. Et donc, tant bien que mal, elle maintient le cap du cas par cas en se défendant très mal sur sa décision politique. Moi, devant la Cour européenne, ce que dit la France, c'est très compliqué, ces opérations de rapatriement, vous n'imaginez pas, les militaires mettent leur vie en danger, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'y parvient pas. Non, mais la Belgique y parvient, l'Allemagne y parvient, le Tadjikistan, il a rapatrié 150 femmes et enfants en une seule fois. Donc voilà, les opérations de rapatriement, quand on veut les faire, elles peuvent être menées à bien sans difficulté aucune. Et les États-Unis nous aident beaucoup dans la logistique. Parce que les États-Unis appellent au rapatriement depuis longtemps. Et les Kurdes aussi, n'oublions pas. N'oublions pas que ceux qui détiennent ces femmes et ces enfants appellent les pays européens et la France en tout premier lieu à les rapatrier. Ils ont autre chose à faire que de s'occuper de ces femmes et de ces enfants dans ces camps. Bref, en 2021, 97 femmes et enfants européens sont rentrés, dont 7 enfants français tout seuls sans leur mère. Voilà ce que c'était que la politique française. Bref, la France est condamnée par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies pour violer la Convention internationale des droits de l'enfant, pour exposer ses enfants à des traitements inhumains et dégradants en les maintenant dans ces camps. Donc la France est condamnée en février 2022 et maintient sa politique du cas par cas. Et puis, élection présidentielle, et là, on nous annonce un changement de doctrine, on rapatrie les enfants avec les mères. Première opération de rapatriement 5 juillet 2022, 16 femmes, 35 enfants. Vous savez, je vais vous dire, moi, je me suis occupée, en tout cas je connais, en tout cas je défends, des enfants qui sont rentrés de zones en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ben, je peux vous assurer que les enfants qu'on a laissés, qu'on a abandonnés dans les camps pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils sont différents de ceux qui sont rentrés sans passer par les camps. Et c'est ça qui est terrible. C'est de constater que plus ils rentrent tard, plus on les laisse pourrir dans ces camps, plus la prise en charge médicale et psychologique, elle sera compliquée, elle sera difficile. Et ça, c'est une violence franco-française. Si ces enfants avaient été rapatriés il y a 3 ans, ils ne seraient pas dans l'état dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Le scandale, il est là, en fait. Moi, je continue à dire que ces enfants sont doublement victimes. D'abord de leurs parents, d'abord du choix de leurs parents, et ensuite de leur pays qui a fait le choix de les abandonner, pour certains d'entre eux, toute leur enfance.
Et cette idée qu'il y a des gens qui sont inassimilables, décréter qu'il y a des personnes, des individus, et surtout des enfants, évidemment, qui sont inassimilables, c'est ne pas croire en la République.
Henri Leclerc, avocat.
Il y a des gens qui sont... au fond, ils ne le disent pas. Mais au fond, c'est ce qui justifie la peine de mort. Hein. C'était la grande justification. Quand on a mené, comme moi, une bataille très, très longue contre la peine de mort, qu'on a fait des conférences, des débats, des choses. C'était la réflexion qu'on nous faisait toujours. On les exécute parce qu'ils sont inassimilables. Bon. Dire qu'au jour, il y a des gens qui sont inassimilables parce qu'ils ont commis des actes que l'on réprouve, que la République réprouve. Mais ce n'est pas pour autant. Enfin, on ne peut pas décider qu'il y a des hommes... Alors, c'est ça, on revient à la peine de mort. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a ? La suppression de la peine de mort, c'est simplement qu'on ne veut pas avoir de sang sur les mains. Ce n'est pas qu'on considère la valeur intrinsèque et autonome des individus. Bon, voilà, c'est une conception différente de la République.
La femme que vous allez entendre est quelqu'un que je défends depuis des années, pour laquelle j'ai un immense respect, que certains magistrats appellent la colonne vertébrale des dossiers d'instruction, parce qu'elle a énormément renseigné les services de renseignement, les juges d'instruction antiterroristes. C'est une femme qui a fait un travail sur elle énorme. Elle l'a fait en détention, elle l'a fait ensuite, en étant placée sous contrôle judiciaire, sous surveillance électronique après. Moi, j'ai tissé un lien très fort avec elle, en détention, parce qu'en détention, on tisse des liens très forts lorsqu'on se rend souvent au parloir. C'est quelqu'un qui évolue aujourd'hui de façon assez stupéfiante et qui prend soin de ses enfants. Et surtout, c'est quelqu'un qui a su, dès le début, regarder en face son choix, qui a été celui de partir. Elle ne s'est jamais victimisée, mais elle l'explique. Elle l'excuse pas, elle l'explique. Et effectivement, elle était à cette époque-là
dans la recherche d'une sortie. Elle vivait en France dans une violence incommensurable. Beaucoup de femmes sont parties pour échapper à la violence, et notamment la violence intrafamiliale. Beaucoup. En tout cas, moi j'en défends beaucoup. Et je ne les victimise pas en expliquant ça. J'explique. C'est important d'expliquer. Expliquer, c'est pas excuser.
Moi, j'avais appelé l'ambassade en leur disant « Je suis dans cet hôtel, je suis française, j'ai réussi à m'échapper, je veux venir me rendre à la France. Je sais que je dois être arrêtée, je veux être arrêtée, donc je veux venir me rendre. » Et là, on m'a dit de venir à 14h. Je me suis rendue là-bas, j'ai été accueillie par le consul qui nous a bien accueillis. On a eu un très bon traitement. J'ai été un petit peu questionnée, mais tout de suite après, on a été confiée au service turc. On a été dans un centre de rétention. On a passé 12 jours, il me semble, dans ce centre de rétention en Turquie. J'étais emprisonnée avec mes enfants, derrière des vrais barreaux, avec des femmes... un peu de tout pays, puisque c'était plus une expulsion de personnes qui sont illégalement en Turquie. Rien à voir avec des personnes qui étaient au sein de Daesh. Et voilà, j'étais avec des femmes. Après, ben, je me suis préparée un jour, on m'a dit « c'est bon, ton billet est là ». Et j'étais la seule qui était contente d'être expulsée en France. Elles n'ont pas compris pourquoi, bon, c'est pas grave. Donc ensuite, dès que je suis arrivée en France, j'ai tout de suite été arrêtée à l'aéroport. On est parti dans une petite salle où normalement je devais dire au revoir à mes enfants. Mais on a tout de suite commencé à m'interroger à cet endroit-là, sans attendre que je sois... dans les locaux de la DGAC, on a directement commencé à me questionner. J'ai pas pu dire au revoir correctement à mes enfants. Je les ai laissés hurler en me voyant partir, quoi. Après, on m'a menotté, tout ça, et j'ai été emmenée dans la garde à vue de la DGAC.
Vous saviez que vos enfants allaient vous être enlevés ? On vous avait prévenu à Istanbul quand vous avez pris l'avion. Vous saviez qu'arrivé à l'aéroport, vous alliez devoir leur dire au revoir, ou vous l'avez découvert en arrivant à Paris ?
J'ai découvert à Paris que je n'allais pas avoir de temps, que tout de suite on allait me les enlever. Moi non, je pensais que j'allais rester avec eux un petit peu. Franchement, je pensais même que j'allais rester avec eux comme une semaine, où on allait s'assurer qu'ils étaient en bonne santé, peut-être que moi aussi, que je n'avais rien, tout ça, qu'il allait avoir une vraie transition. Mais non, pas du tout. Ça m'a choquée, en fait. J'ai vécu un traumatisme, et eux aussi. Là, c'était très violent. Cette séparation était violente. Il faut savoir que mes enfants, depuis le jour où ils sont nés, il n'y a pas un jour où j'ai passé plus d'une heure sans eux. Surtout avec les bombardements, la guerre, l'atmosphère là-bas. Ils étaient collés à moi, peau à peau, tout le temps. J'avais tout le temps ma fille dans mes bras et on dormait serré. Parce que souvent, durant la sortie de Daesh jusqu'à arriver en Turquie, on a dormi dans la rue. On a dormi dans des endroits où on avait les pieds dans l'eau, mais on était obligé d'être dans cet endroit-là, se cacher pour passer la frontière. Donc j'étais leur source de chaleur complètement, quoi. Il n'y avait pas de radiateur, rien. J'essayais de les réchauffer de mon corps, en fait. Et de cette séparation-là, c'était comme si on me les avait arrachés. Et ils ont vécu ça aussi comme ça. C'était un très gros traumatisme. Ma fille n'avait que 2 ans. C'était un bébé, elle ne parlait pas encore. Mon fils avait 3 ans. J'entends encore les cris perçants de ma fille. Aujourd'hui, j'ai cette image-là de... Ma fille, c'était un petit bébé. Je la voyais encore avec son visage de bébé, son corps de bébé. Là, c'est... Elle a 5 ans. Et c'est plus du tout le même visage. Donc voilà, c'était vraiment très, 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 très difficile. Violent et difficile.
Le retour des femmes de Syrie, elle se fait via la Turquie, avec les accords de Cazeneuve. Donc la Turquie se met en lien avec la DGSI en France, et comme l'aéroport, elles viennent via Roissy, et comme l'aéroport se trouve sur le 93, c'est l'aide sociale à l'enfance du 93 qui est en charge des enfants. Donc nous, on reçoit un premier document, les services reçoivent un document où on décrit les enfants, les âges, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Enfin, c'est très succinct. À partir de là, on cherche des places et on a rendez-vous. C'est 7h, 6h30 du matin à l'aéroport de Roissy. Donc les femmes, dans les premières, les enfants ont été récupérés à la descente de l'avion. Ça a quand même changé maintenant. On va chercher les enfants dans une pièce à l'aéroport. Avec, donc il y a la DGSI, la police, les hommes masqués. Donc c'est assez impressionnant. Hein. Nous, en tant que, moi, humainement, j'ai trouvé ça très impressionnant. Elles ont 2 minutes pour dire au revoir à leurs enfants. Elles disent au revoir à leurs enfants et on s'en va avec les, nous, on part avec les enfants, donc on leur donne des infos. C'est, je leur dis, ils vont être accueillis en famille d'accueil dans un service. Et puis on va tenter de vite rentrer en lien avec vous. Dans les premiers temps, l'aide sociale à l'enfance, comme c'était des enfants au retour de zone, donc il y avait terrorisme, on nous demandait de ne pas mettre notre nom dans les rapports, de ne pas se présenter. Moi, j'ai trouvé ça que c'était inhumain, parce qu'on a quand même affaire à des tout-petits, mais vraiment des tout-petits. Et on a aussi, on vit la violence de la séparation, parce que pour la plupart, il y a des nouveau-nés, des enfants très, très petits, et qui sont au sein de leur mère. Donc on arrache ces enfants à leur mère, à l'aéroport. Et nous, on arrive là, gentils français, avec nos petites maisons, notre petite douche, et on se dit, ben, ils vont être bien. Ben non, en fait, ils ne sont pas bien, quoi. Ils souffrent de cette séparation. Et il faut déjà, il faut un temps monstrueux pour savoir où elles sont, dans quelle prison elles sont incarcérées, pour pouvoir demander des permis de visite et avoir un droit par le juge des enfants et pouvoir accompagner ces enfants voir leur mère et mettre en place l'accompagnement éducatif et mettre en place, reconstruire un lien mère-enfant à partir d'une incarcération.
Quand j'étais en détention, j'avais un droit de visite. Du coup, ils venaient me voir au parloir. C'était une demi-heure, une fois tous les 2 mois. Je pouvais jouer un petit peu dans une salle, le temps de leur faire quelques bisous. Et ils étaient avec des services de l'ASE et de l'UMO, la PJJ, qui les ramenait. Et voilà, c'était un droit de visite une à deux fois tous les 2 mois. En détention, je ne les voyais pas beaucoup. Après, c'est plus...
Mais pourquoi si peu?
Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi si peu. Peut-être parce qu'ils étaient trop jeunes et que... ils étaient trop jeunes et après, ça a évolué une fois toutes les 2 semaines, tout ça. Mais c'est difficile pour des bébés de venir en prison. C'est voir leur mère comme ça. Même moi, je vous cache pas que c'était dur pour moi de les voir dans cet endroit-là. J'avais l'impression de leur faire subir encore quelque chose. Donc je peux comprendre le fait qu'ils soient jeunes et que c'est trop compliqué de voir leur maman en prison. Mais quand je suis sortie, j'ai commencé à avoir des droits... de visite. J'ai commencé à les voir tous les week-ends, puis des droits d'hébergement, et puis là, demander la garde complète de mes enfants.
Il faut aussi une information qui peut vous paraître très importante, c'est-à-dire que dans le circuit de ces enfants-là, pour ceux qui sont nés sur les camps ou ceux qui sont nés en Syrie, comme il n'y a pas d'acte de naissance, puisque c'est un pays qui n'est pas reconnu, l'État le Daesh,
Donc ces enfants perdent leur... Ils arrivent avec un nom, le nom de leur mère, par exemple, et dans le parcours qu'ils ont à l'aide sociale à l'enfance, pour définir la filiation, ils perdent leur nom. Et on leur donne un nom hasardeux que la France veut bien leur donner. Donc celui qui s'appelait, je vous prends un hasard, Dupont, il peut s'appeler... Par exemple, un qui va être d'origine maghrébine, qui va s'appeler Abdel Mohamed, le nom Abdel va sauter, il peut devenir Dupont Mohamed. Le temps que la filiation soit prouvée et définie, que cette mère est bien la mère de cet enfant-là. Donc le temps des démarches, il faut compter 18 mois et 2 ans, sur le 93, les enfants ne portent plus leur nom. Ils deviennent un nom que la France leur donne, un nom hasardeux. Donc, il faut attendre que la filiation soit établie. Mais la filiation, il y a le test, et puis il y a le temps judiciaire. Et le temps judiciaire en France, il est très, 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 très lent, puisque même si le test dit à 99,999999%, Madame Intel est la mère de cet enfant, bon, eh bien, il faut qu'après, ça passe au tribunal, et qu'un juge, alors c'est pas le juge pour enfants, c'est le juge des tutelles, il reconnaît et rend son jugement en disant « Madame Intel est bien la mère d'un tel ». Une fois qu'on a ce jugement-là, ça part à Nantes et on obtient enfin un acte de naissance qui dit que Madame Intel est bien l'enfant d'un tel. Et là, à partir de seulement à ce moment-là, on peut faire évaluer les conditions d'accueil dans la famille élargie. À partir de ce moment-là, il s'est écoulé deux ans et demi, voire trois ans, dans le 93. Un temps fou, c'est énorme. Le temps judiciaire n'est pas le temps réel et ni le temps des enfants. Et ces enfants-là, ils s'attachent aux figures d'attachement qui est les familles d'accueil, le couple de familles d'accueil, à d'autres petits camarades. Et puis après, il faut reconstruire le lien avec leurs grands-parents, leur oncle, leur tante. Et il faut du temps, parce que on n'est pas dans les mêmes. La temporalité n'est pas la même. Il faut le temps. Et je suis pas d'accord avec ce temps-là. Moi, je suis. C'est énorme pour ces petits, ce temps qui s'écoule. C'est énorme. Mais on fait avec. Moi, je pense que c'est politique. Sauf que il va falloir que quelqu'un un jour explique à ces politiciens, à ces politiques, que si on veut créer du terrorisme, on ne fait pas mieux là. Il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a des psychiatres, il y a des avocats, il y a Maître Dosé qui connaît l'histoire par cœur et qui voit. Et puis ces enfants-là, c'est des enfants français, ce sont nos enfants, c'est quand même l'avenir de la France, et on les a abandonnés. Moi, je trouve que c'est dramatique ce qu'ils font, parce qu'on construit du terrorisme, et humainement, c'est aberrant. Il y a des orphelins, où est l'intérêt de la France? Et même les femmes, et puis est-ce qu'on n'a pas le droit à une deuxième chance aussi? Est-ce que humainement, on ne peut pas... permettre à ces femmes de rentrer en France et de retrouver une place dans notre société, puisqu'elles en font partie, finalement, notre société.
Je pense qu'il y a aussi une volonté de punition. Il faut le dire. Il y a une volonté de les punir, de dire « Vous avez quitté la France, vous vous êtes désavoué, donc la France se désavoue de vous aussi ». Et il n'y a pas de retour possible. Parce que là, c'est des personnes qui soit veulent vraiment rentrer parce qu'elles n'en peuvent plus. Elles en font la demande. Elles savent qu'elles encourent des peines et qu'elles veulent être incarcérées, répondre, être jugées. Là, la France peut avoir un contrôle total sur ces personnes-là. Et comme je vous dis, j'en suis la preuve. Et de les laisser là-bas, c'est dangereux, parce qu'elles peuvent rester ancrées ou encore plus nourrir cette idéologie de dire « Ah ben, même notre pays, ben, ils nous prouvent qu'ils ne veulent pas de nous, ben, on va encore s'ancrer, on va recréer autre chose parce qu'ils ont vécu les pires traumatismes, en fait. »
Bonjour, moi je te perds. Prenez ma plume, ouvrez mes livres, ça c'est lui, sur mon lit, quand je me perds.
Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait Bonjour, mon petit père. Prenez ma plume, ouvrez mes livres, s'asseyez sur mon lit, dérangez mes papiers et riez. Puis soudain, s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors, je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue, et, tout en écrivant parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle et qu'elle avait tracée, et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers, et dire qu'elle est morte. Hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gaie quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux si j'avais, en partant, vu quelque ombre en ses yeux.
Merci à Marie Dosé, Gaëlle Joly, Raymond Albouy pour sa prise de son dans les camps, Henri Leclerc. Merci à cette femme de l'aide sociale à l'enfance qui a préféré, à juste titre, conserver l'anonymat. Merci à cette autre femme qui a accepté, à nouveau, de confier son témoignage pour une émission de radio. Merci à Sandra Alvarez de Toledo. Merci à Lucie Simon. Et merci à toutes les femmes et à tous les enfants qui ont eu le courage de raconter leur vie dans les camps syriens au micro de Gaëlle Joly. Recherche INA, Stéphanie Place. Mixage, Manuel Couturier. Attaché d'émission, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervan. L'antiterrorisme français, la justice et la peur, les enfants des camps syriens. Un documentaire d'Adrien Chevrier et Séverine Cassard.